Le projet de loi Climat et Résilience a récemment été présenté en Conseil des ministres, issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et ses 150 signataires tirés au sort. Durant des mois, la Convention citoyenne pour le climat a réfléchi aux solutions pour changer entre autres nos façons de consommer, produire ou encore nous déplacer. Depuis, beaucoup de propositions ont été rabotées, voire avortées, laissant penser aux membres de la Convention que le gouvernement manquait d'ambition pour mettre en œuvre leurs doléances. Entretien réalisé par téléphone lundi 15 février avec Héloïse, jeune signataire originaire de Dunkerque, pour évoquer les couacs et son ressenti face aux reculades gouvernementales. On abordera également en fin d'interview la dernière mobilisation non à Tropicalia, projet d'une serre tropicale géante prévue du côté de Rondufliers. On est en compagnie d'Héloïse, qui est l'une des 150 signataires de la Convention citoyenne sur le climat. Alors si je ne me trompe pas, tu es en première année de médecine. Et donc, première question, est-ce que quand tu as été tirée au sort en 2019, suite évidemment au grand débat citoyen qui avait eu lieu, est-ce que tu avais déjà une conscience écologique déjà présente ou il y a une prise de conscience quand tu as commencé à travailler sur les propositions avec les autres signataires?
Alors oui, je suis en première année de médecine. Après, l'année passée déjà, quand on a commencé la Convention citoyenne pour le climat, j'avais 17 ans et j'avais la chance en fait d'être déjà au courant de l'urgence climatique par mon grand-père, qui est membre du mouvement national de lutte pour l'environnement depuis que je suis toute petite. Donc j'avais déjà cette conscience climatique par lui depuis longtemps et aussi parce que j'avais participé au mouvement de Greta Thunberg des Vendredis Verts et des grèves pour le climat de la part des jeunes.
Un an et demi après donc son lancement, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat arrive presque à son terme. Mercredi 10 février, le gouvernement, à l'instar de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a présenté en Conseil des ministres son projet de loi Climat et Résilience, issu des travaux de la Convention citoyenne. Ton analyse sur ce projet gouvernemental présenté en Conseil des ministres?
Alors, le projet de la loi climat, bien évidemment, il amoindrit les mesures. C'est la première chose qu'on voit. On le sait tous très bien. Il n'y a plus à le cacher. Il n'y a pas à faire semblant avec les lois pour le climat. En fait, que ce projet de loi représente l'ambition du rapport des 150. Je pense, en fait, aujourd'hui, que ce projet de loi, il représente absolument pas l'ambition qui se retrouvait dans le rapport final des 150, où, en fait, justement, cette ambition et cette réponse à l'urgence climatique, elle était en accord avec une question de justice sociale. Et ce qui était beau dans ce rapport, ce qui faisait qu'il était complet, c'était justement l'ambition et la justice sociale. Et donc peut-être que le gouvernement a gardé une partie de la justice sociale, mais tout ce qui est ambition pour le climat, ça a été foutu en l'air pour moi.
Parmi les mesures que la loi climat ne servira pas, il y a trois points essentiels. D'abord, en ce qui concerne le transport aérien, finalement, ce projet de loi continue à poursuivre des vols intérieurs qui est un peu un non-sens climatique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus?
Alors, on voit en fait que le gouvernement ne veut pas mettre son veto sur cette mesure de projet sur les avions. Et en fait, on se rend compte que maintenant, il y a eu une pression d'abord de la part des lobbies, mais en plus, pour moi, là maintenant, la réponse qui doit être, ça doit être une réponse citoyenne. Où en fait, on se dit, ok, le gouvernement ne peut pas interrompre, annuler, empêcher ces vols sur le territoire. Alors c'est à nous, aux citoyens, d'essayer de trouver d'autres moyens. Enfin, maintenant, je sais, pour moi, la mesure complémentaire de cette mesure sur les avions, c'était justement celle des trains, en disant, si on ne peut plus prendre l'avion, on prendra le train. Et je pense que c'est justement ça aujourd'hui où les citoyens entre eux doivent le dire et où bien évidemment on doit se dire c'est pas normal en 2021 que le gouvernement français ne comprenne pas que c'est plus possible de continuer les vols locaux. Et je trouve que c'est bien dommage et encore une fois c'est décevant de la part de notre gouvernement français qui manque d'ambition et qui, enfin, on a l'impression un petit peu qu'il se fout de notre tête en nous disant mais non, l'urgence climatique elle doit pas être si urgente que ça, je pense.
Ensuite, y a l'agriculture, évidemment, le péril des engrais azotés de synthèse, comme on les appelle. Taxer progressivement ces produits chimiques aurait un effet direct sur les émissions du secteur agricole. Et apparemment, l'exécutif joue plutôt la montre.
On a envie de dire, encore une fois, une mesure où on nous dit « Attention, on va aller doucement. » Et au final, est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va pas y aller? Alors oui, forcément, ça m'inquiète encore une fois. Alors oui, bien évidemment, les agriculteurs, on doit les accompagner. La Convention citoyenne pour le climat, on a rencontré énormément d'agriculteurs. On n'est pas là pour leur dire non, stop, demain, vous vous débrouillez, vous n'avez plus d'engrais, vous allez perdre la moitié de votre champ et puis c'est comme ça. Non. On est là, justement, oui, pour forcer tout le monde à aller vers cette transition écologique.
Et puis il y a aussi le deuxième secteur hein, qui est le plus polluant, c'est le bâtiment et le logement, qui est un gisement de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement apparemment se félicite d'interdire la location des passoires thermiques en 2028. Pour le reste, donc encore une fois, il poursuit une politique des petits pas. T'en penses quoi ?
Petits pas, on commence à en avoir marre en fait. C'est un truc où on se dit, purée, toute la jeunesse s'est réveillée, on leur a montré qu'on avait besoin d'ambition politique et on n'en a pas, on n'a pas d'ambition politique et c'est ce qu'on retrouve encore une fois pour le groupe Se Loger. Alors aujourd'hui, d'avoir fait travailler 150 personnes pour amoindrir ces mesures, enfin c'est bon, au bout d'un moment donné, on a compris, on sait, vous voulez amoindrir, mais dans ces cas-là, dépensez pas des sous pour faire venir 150 citoyens et travailler sur la question... du dérèglement climatique dans un esprit de justice sociale et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc encore une fois, petit pas par petit pas, on a l'impression d'aller nulle part. Et je pense que c'est encore une fois à la jeunesse, mais à chacun des citoyens de se dire non, aujourd'hui, un gouvernement comme ça, on va nulle part. Et encore une fois, de se montrer et de se manifester. Dans le cadre du Covid, on sait très bien que c'est compliqué, mais les manifestations vont reprendre. Et bien évidemment, on ne se laissera pas faire et on ne va pas accepter que toutes les mesures de la Convention citoyenne soit amoindrie à ce point-là.
Alors on a bien compris, hein, il y a l'influence démesurée des lobbies. Quid du moratoire sur la 5G ?
Le moratoire sur la 5G, je pense que c'est un débat qu'on a eu au sein des 150, mais c'est un débat en fait qu'on retrouvait totalement au sein de la population française. Et quand on en a parlé, moi c'était pas forcément une question que je me posais. Et en fait en parlant, je me suis rendu compte que beaucoup de monde autour de moi se posait la question d'un moratoire sur la 5G. Et je me suis dit, mais si tout le monde se pose la question, il est peut-être temps de demander l'avis des Français. Et je trouve que la Convention, c'est ça en fait qu'elle avait envie de montrer que les Français pouvaient être acteurs du gouvernement et des propositions de loi de demain. Et c'est en fait ce que le gouvernement nous a dit, non, pas de citoyens français dans le débat des prochaines lois.
Et puis, bien évidemment, le secteur publicitaire, hein, les signataires, donc, vous aviez émis plusieurs propositions visant à réguler la publicité et du même coup son influence sur les modes de consommation. Et du coup, forcément, le secteur publicitaire a réagi. Alors, est-ce que tu penses quand même qu'il y a un côté positif dans la loi qui est passée au Conseil des ministres ?
Encore une fois, ça amoindrit. Alors oui, c'est déjà ça. On peut se dire, oui, c'est déjà ça, mais on sait très bien que c'est pas assez. Alors oui, la publicité, ça a été un gros point en fait de cette convention et du projet de loi qui aurait dû être encore plus ambitieux, puisqu'en fait, la publicité, ça peut justement changer tous nos modes de consommation. Et en fait, si chacun individuellement change le mode de consommation, bien évidemment, sur le global, ça aura un effet énorme. Et c'est pour ça que c'était super important. Donc évidemment, dans le projet de loi, on retrouve quelques petites parties, mais pas assez en fait, pour avoir un changement de fond sur les modes de consommation. Et c'est ça, encore une fois, que je trouve ça bien dommage.
Normalement, dans un mois, le texte sera examiné à l'Assemblée nationale et le week-end des 27 et 28 février. Les membres de la Convention se réuniront d'ailleurs une dernière fois en plénière pour juger l'action de l'exécutif. Est-ce que les signataires ont encore une marge de manœuvre pour s'opposer à ce projet de loi ?
Une marge de manœuvre, je ne sais pas, mais en fait, on a notre pouvoir citoyen. Tous, individuellement, on est citoyens français. Et je pense que maintenant, avec les connaissances et avec, on peut dire, certaines compétences qu'on a apprises dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, c'est maintenant à nous de parler aux autres citoyens, de dire ce qu'a été cette convention pour nous et en fait de partager notre expérience et de se poser ensemble les questions de comment on va faire pour répondre à l'urgence climatique si le gouvernement n'agit pas.
On est toujours en compagnie d'Héloïse, l'une des signataires de la Convention citoyenne pour le climat. On évoque à présent avec elle une décision du tribunal administratif de Paris envers le gouvernement et on fait le point sur la dernière mobilisation du collectif d'associations et de citoyens Non à Tropicalia.
Le 3 février, le tribunal administratif de Paris a rendu sa décision suite à la plainte déposée par 4 ONG accusant l'État français d'inaction climatique et souligne d'ailleurs sa responsabilité à ne pas avoir respecté les objectifs qu'il s'était fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, alors l'État a été condamné à verser 1 euro symbolique. Considères-tu que c'est une victoire, voire un espoir éventuellement pour faire avancer les choses, puisque désormais, toutes les victimes directes des changements climatiques en France pourront désormais donc se tourner vers la justice et s'appuyer sur ce jugement pour demander réparation des préjudices subis.
Oui, bien évidemment, je pense que c'est un espoir. Je pense que c'est une réussite parce que ça veut dire que la justice se rend bien compte que le gouvernement n'est pas capable d'être ambitieux en réponse au dérèglement climatique. Alors je pense bien évidemment que c'est important et je pense aussi bien évidemment que ça nous a tous fait sourire en se disant « Youpi, il y a déjà ça de pris ». Et bien évidemment, j'ai de l'espoir pour demain. Et bien évidemment, j'ai de l'espoir pour notre Terre en se disant « Waouh, mais les choses, ils peuvent changer. » On voit les comportements qui changent. On voit plein de choses qui peuvent changer. Alors maintenant qu'on sait que les citoyens peuvent changer, on a vraiment besoin de ce levier gouvernemental et de dire « Oh, les politiques, on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez ambitieux. »
Et enfin, dernière question un peu bonus en ce qui concerne la mobilisation non à Tropicalia. Ce projet d'une serre tropicale immense a rendu flié sur la côte d'Opale. Est-ce que tu peux éventuellement nous faire un petit bilan de la dernière mobilisation qui s'est déroulée le 6 février dernier?
Alors le 6 février dernier, c'était à peu près 250 personnes qui se sont retrouvées à Renduflier, là où la serre doit être construite, pour dire non à Tropicalia. Non à Tropicalia, pourquoi ? Non à Tropicalia parce que c'est une immense serre tropicale, à côté de la côte d'Opale, et on nous dit dans les arguments, oui, c'est pour protéger la biodiversité. Protéger la biodiversité tropicale en côte d'Opale, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais en plus de ça, c'est une grande serre tropicale, la plus grande serre tropicale d'Europe, il me semble, qui va être construite à cet endroit-là pour attirer les touristes, alors que justement, on pourrait avoir d'autres projets, encore une fois, des projets en accord avec les citoyens, sur la biodiversité locale. On sait qu'en fait, même pas 3 km de l'endroit où va être construite la serre, on peut voir en baie d'Oti les phoques sur la plage nous-mêmes, et on peut faire des super balades avec de la biodiversité aussi. Et j'aimerais en fait que ce projet de serre, il ne soit pas une serre tropicale, mais justement qu'on arrive à avoir un projet local qui crée de l'emploi local et durable.
Alors, donc on sait que évidemment il y a eu plusieurs actions en amont qui ont été organisées. Il y a eu une première mobilisation à Renduflier au mois de décembre. Il y en aura certainement d'autres. Est-ce qu'il y a eu quand même une discussion, une rencontre, un débat avec les promoteurs qui envisagent cette serre tropicale, Tropicalia ?
Pour l'instant, le débat avec les promoteurs, il est très faible. Alors, le travail du collectif non à Tropicalia, il continue de se faire sur qui finance, pourquoi on finance, comment on finance, et d'avoir en fait un travail de prévention et de sensibilisation sur ce projet. Mais on a aussi la pétition qui est en ligne maintenant depuis samedi 6 février et qui a déjà eu pas mal de signatures, notamment Cyril Dion par exemple ou Alain Bougrain-Dubourg.
C'était un entretien téléphonique réalisé lundi 15 février avec Héloïse, jeune signataire de la Convention citoyenne pour le climat, afin de faire le bilan du projet de loi Climat et résilience récemment présenté en Conseil des ministres.